avant de donner la parole à la salle, je voudrais quand même souligner quelques éléments. Donc le fait que tu aies mis l'accent sur le fait qu'un enfant trouve du plaisir immédiat dans la réalisation de l'objet me semble quelque chose de vraiment fondamental. Alors déjà à l'école, effectivement, de tradition, normalement on apprend à lire et après à écrire. Mais ça, on a renversé la vapeur déjà depuis bien longtemps, et on s'appuyait depuis bien longtemps sur les travaux d'Emilia Ferrero pour faire écrire les enfants dès la maternelle. Et ça, effectivement, ça a été un changement majeur dans l'enseignement. Alors, avec l'arrivée du numérique, ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'effectivement, l'enfant fait tout de suite un bel objet écrit. Et ça, c'est très important. Il fait un bel objet dont il est fier. Parce que le problème avant, avec l'écriture manuscrite, c'est que c'est très très difficile d'apprendre à écrire. C'est très fatigant. Mais en même temps, il y a cette question-là que Madame Bizot avait légèrement évoquée dans l'introduction, c'est la question du geste et du corps. Et pendant combien d'heures les enfants ont passé, enfin traditionnellement, à apprendre à écrire, à contrôler la main, le doigt, la position sur le cahier, le geste, etc. Enfin, des efforts considérables pour réaliser des traits, des bâtons, des lignes, etc. Et peut-être que tu soulèveras le problème, Eric, lors du colloque sur l'arabesque que tu organises au mois de mai. Donc il y a cette question-là, effectivement, comment on apprend finalement à écrire en situant son corps dans l'espace, parce qu'il y a des paramètres énormes à maîtriser, enfin, la dimension, la taille, le débit, le rythme, etc. Et c'est très très difficile. Or aujourd'hui, effectivement, avec le numérique, j'ai envie de dire copier-coller, enfin, sélectionner, voilà, je clique et je peux produire. Donc apparemment le geste peut être plus simple, parce qu'effectivement le clavier d'un ordinateur, enfin, on voit apparemment que les enfants manipulent assez rapidement. Et si on regarde les productions des élèves, effectivement ils rendent de très beaux objets. Enfin, si on compare sur les objets rendus il y a 30 ans par exemple, à l'évidence, les objets scolaires rendus sont magnifiques. On a des objets extraordinaires. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et on revient aussi sur la question des beaux-arts numériques. Qu'est-ce qui fait que ça rentre, effectivement, dans la question des beaux-arts? Donc je crois que ça va être une question qui va être récurrente pendant tout le séminaire, c'est cette question de valeur et de légitimation, qui s'accompagne de la question du fait qu'on a ici des poètes qui ont été invités et qui vont également commenter leur œuvre. Et on voit, tout à l'heure c'était Alexandra je crois qui parlait de ça, le fait que finalement c'est des universitaires qui validaient des œuvres. Mais donc il y a ce lien entre la création et le discours théorique qui va avec. Et je pense que là aussi dans la tradition littéraire, on a ce jeu constant entre le producteur de l'œuvre d'art en quelque sorte et la théorie de l'œuvre d'art. Mais c'est vrai qu'à l'école, on transmet beaucoup plus, je dirais, des textes poétiques, par exemple sur Ponge, que les écrits théoriques de Ponge, enfin des auteurs sur leur œuvre, enfin, me semble-t-il. Donc là, c'est une autre question. Et peut-être dernière question aussi qui me semble indispensable à interroger, c'est celle de l'instabilité de l'œuvre numérique. Voilà. Alors effectivement, parce qu'on n'a pas d'objet à saisir, c'est absolument insaisissable. Or, c'est très déstabilisant pour le lecteur, effectivement, d'avoir quelque chose qui échappe toujours, qu'on n'arrive pas à saisir. Et pour l'enseignant, c'est très déstabilisant, parce qu'effectivement, on a l'impression de ne pas en faire le tour, de ne pas maîtriser la chose que l'on doit transmettre. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole, et peut-être que vous avez des questions à poser à Eric.
Circuler. À faire, les logiciels consacrés, enfin Processing, c'est 2001, qui est consacré à la création en art visuel numérique, etc. Donc ça a 10 ans, je veux dire, qui est plus simple que Java, etc. On parlait de la question du technicien tout à l'heure. Je veux dire, le pinceau est plus accessible aujourd'hui qu'il y a 10 ans, si j'ose dire. Donc les choses sont nouvelles. C'est un petit peu normal que l'université, qui a toujours un certain temps de latence et de retard sur les propositions des créateurs, surtout en France d'ailleurs, à mon avis, plus qu'aux États-Unis, plus qu'en Angleterre, plus qu'en Allemagne, mettent un petit moment à s'interroger sur ces formes.
En fait, si vous permettez, j'ai deux remarques. Alors la première concerne la remarque que toi tu as faite, Martine, sur l'insaisissable de l'œuvre numérique. Et c'est vrai que je suis en grande partie d'accord, bien sûr, hein, pour différentes raisons qu'on va détailler par la suite. Mais en fait, je crois que si l'œuvre numérique, ou si on a l'impression que l'œuvre numérique, notamment littéraire, nous échappe, c'est aussi parce que, pour le dire d'une façon un peu caricaturale, on ne prend peut-être pas ou on n'a pas encore assez appris à la lire. C'est-à-dire que on a du mal, pour l'instant, à résister encore à la tentation du clic, à tout cliquer avant même de lire et de lire les textes qui sont présents. Or, c'est vraiment une chose pour laquelle que j'ai envie de défendre, c'est d'essayer, même si c'est difficile de résister, de prendre le temps de, et même d'apprendre ça aussi aux élèves ou aux étudiants, hein, que ça vaut le coup de prendre le temps et de réfléchir sur les textes et comment les textes sont liés par les hypertextes et réfléchir sur le sens que ça prend, hein, même si c'est difficile et qu'on n'a pas encore tous les outils pédagogiques, mais essayer de prendre le temps. Maintenant, la deuxième remarque, elle vient un peu tard, mais c'est une réponse à la question que vous vous posez, c'est quelles peuvent être les pistes de réflexion pour intégrer vraiment le numérique dans la pédagogie. Et c'est vrai que, évidemment, c'est une question qu'on se pose tous, qu'on soit au lycée, au collège ou à l'université. Et en fait, j'aimerais juste vous raconter une minuscule anecdote que j'ai vécue en 2008, en fait, quand je suis arrivée à l'université Paris 8. Parce qu'en fait, j'étais confrontée là à des étudiants. C'était pour un cours de sémiotique du numérique, donc c'était plutôt un cours théorique. Et en fait, les étudiants étaient là, une cinquantaine d'étudiants dans la salle. Et en fait, ce qui m'a beaucoup surpris, parce que j'avais pas l'habitude dans les universités où j'étais avant, c'est que tous les étudiants étaient devant un ordinateur. Ils avaient leur portable et ils étaient en train de faire des choses. Alors au début, ça m'a beaucoup déstabilisée, hein, parce que c'est vrai qu'il y a comme là un truc entre moi et l'apprenant. Hein. Il y a cet écran entre nous et on a l'impression qu'on a du mal à capter leur attention complètement. Et vraiment, je me suis posée en permanence la question, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Alors en fait, oui, mais après j'ai eu une espèce de moment de révélation qui m'a quand même beaucoup rassurée. Tout au fond, il y avait deux garçons qui étaient particulièrement absorbés par ce qu'ils faisaient. Et là, je me suis dit, non, mais là, quand même, je ne peux pas laisser passer, surtout que de temps en temps, ils commençaient à discuter, regarder l'écran de l'autre. Je me suis dit, mais à coup sûr, ils sont en train de jouer à un jeu. Alors, à la fin du premier cours, je les ai interpellés. J'ai dit, mais est-ce que je peux vous discuter avec vous ? Parce que, franchement, là, vous étiez en permanence en train de faire un truc. J'aimerais juste savoir, qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Ils m'ont dit, mais madame, vous savez, on était en train de fabriquer un truc à partir de ce que vous avez dit. Alors, en fait, moi, je fais cours à des futurs web designers. Et à partir des concepts sémiotiques que j'ai apportés, eux, ils étaient en train de faire une création numérique qu'ils m'ont montré. Et là, je me suis dit, mais zut, pour moi, c'était un déclic parce que je me suis dit, OK, s'ils ont tellement envie de tout de suite mettre en pratique ce que moi, je leur raconte, c'est peut-être que il faut que je trouve des moyens, je les ai pas encore tout à fait trouvés, hein, mais il faut que je trouve des moyens pour intégrer cette envie dans ma pratique pédagogique. D'une façon ou d'une autre. Mais je sais pas encore très bien comment faire, mais maintenant je donne en tout cas beaucoup plus d'exercices parallèlement à ce que je raconte. Je mets en ligne des petits modules où ils peuvent mettre en pratique des choses. Vous voyez, c'est encore très très embryonnaire, je l'avoue, hein, mais je sens vraiment, et pourtant, parce que c'est vrai qu'on peut pas non plus dire, oui, bah on peut se dispenser complètement de la nécessité d'apporter des éléments théoriques. C'est vrai, on est obligé de passer par cette phase. On peut pas tout de suite rentrer complètement dans le faire. Hein. Même dans des cours de web design, on est obligé d'apporter des éléments sémiotiques, esthétiques. C'est nécessaire. Seulement, ils ont tellement envie, visiblement, de pratiquer qu'il faut d'une manière ou d'une autre intégrer ça dans la pédagogie. Je suis vraiment convaincue de ça. Donc c'est ça les choses qu'il faut qu'on trouve. Comment faire ça? Voilà.
Bonjour, mais excusez-moi, j'ai une extinction de voix, donc ça ne va pas être très facile. Heureusement qu'il y a le micro. Je voudrais vous faire part d'une réflexion que je me fais à l'instant et qui me donne le vertige, et je voudrais partager ce vertige avec vous. C'est que depuis plusieurs semaines, je travaille sur le lien, enfin, je fais des recherches et je fais des actions avec des enfants qui travaillent sur les troubles qui sont engendrés chez les enfants par le déficit de nature. Et on remarque qu'en fait, maintenant, en une génération, on est passé avec des enfants qui sont élevés entre quatre murs du matin au soir et qui n'ont plus de contact avec la nature. Bon, et je ne pensais pas si vite pouvoir faire un lien. C'est que quand je vous entends, je me dis, mais en fait, les enfants sont en train de reproduire sur écran des choses qu'ils ne peuvent plus produire dans la nature. Quand vous parlez de réalité augmentée, et de l'enfant qui passe son dessin à un t-shirt en trois jours, moi je pense au gamin qui a rêvé d'un sifflet et qui fait un hapeau avec une branche de roseau en deux temps trois mouvements. Je pense aux enfants qui ont envie de manger quelque chose de bon et qui font avec la grand-mère, la mère, une délicieuse soupe ou un délicieux gâteau. Et je me dis que en fait, l'écran est peut-être en train de répondre à une demande d'enfants qui n'ont plus d'adultes pour leur expliquer comment il faut faire et qui sont plus dans la nature pour avoir de la matière. On a parlé ici des mots comme de la matière et de ces problèmes de gestes. Entre quatre murs, on n'a plus beaucoup l'occasion de faire des gestes. Et je suis en train de me demander s'il n'y a pas une vraie relation entre les deux. Si ce manque de nature, enfin si quelque part l'être humain qui a besoin de produire, je pense, de produire pour créer son identité, pour dans ce work in progress dont vous parliez, il est aussi là dans la nature. C'est qu'on y arrivera de toute façon. Pour pêcher un poisson, on prendra peut-être beaucoup plus de temps qu'un autre, mais en regardant comment les autres font, on y arrivera. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. Enfin, voilà, c'est le vertige dans lequel je suis là à l'instant même, et je le partage avec vous.
Eric, tu veux répondre, mais je voulais juste te faire remarquer, en tant qu'enseignante, hein, je crois que tous les enseignants tiennent compte de la nature, tout en travaillant sur l'écran. Enfin, et tous les enseignants associés qui sont là et qui vont intervenir montrent bien, oui, ils ont fait de l'écrit. Par exemple, Cécile va faire un travail en histoire des arts avec ses élèves, mais ses élèves ont vu les tableaux. Ils sont sortis. Des enseignantes sont là. Mais ils sortent. Des personnes qui travaillent là, qui font des écritures sur Bartabas, par exemple, sont allées voir le spectacle de Bartabas. Donc les gens sortent. On sort, les enfants, on a le contact direct avec la nature. On ne fait pas des autistes. Comment ?
Avec la culture.
Avec la nature. Moi, j'ai parlé de.
Ce que tu donnes, c'est des objets culturels. Je pense que là, on est.
Je voulais juste te dire que je pense que dans la proposition de Tessa, c'est vraiment l'objet concret, quelque chose de à la racine. Ce que tu décris, ce sont plutôt des objets culturels vers lesquels on amène une médiation. Mais je suis très intéressée par la distinction que vous avez fait entre virtuel et réalité augmentée, parce que je pense qu'il y a une réhabilitation dans les technologies du geste, justement, et qu'on va de plus en plus vers des jeux qui essayent de réintroduire du geste, du mouvement, parce que le corps a été nié par les premières versions technologiques et qu'on essaye de le réintroduire petit à petit. Et pour parler comme notre intervenant des enfants, je pense que il y a dans les tablettes, par exemple, la réhabilitation de ce mouvement de tourner, de circuler dans un espace qui est intéressant. C'est-à-dire que la technologie ressent elle-même ce besoin de réhabiliter dans le jeu des vrais gestes avec les vrais mouvements et pas simplement un clic du doigt. On réhabilite un peu ça, justement.
Moi, j'ai été intéressée par ce que vous disiez aussi, Tessa, mais je pense qu'on peut dire ça et son contraire. Il y a une étude en ce moment qui est en train d'être faite, qui n'est pas publiée, sur les problèmes de santé mentale dans les pays occidentaux et qui montre qu'en fait, il y a une recrudescence des démences qui seraient liées, je mets un conditionnel, puisqu'en fait le travail n'a pas été publié, même s'il a été annoncé, des solitudes. Or, est-ce que nous ne participons pas de ces solitudes? Je pense que là, il y a à réinterroger les enseignants. De la même manière que je pense que ce que vous avez présenté comme la satisfaction du désir immédiat laisse l'enfant, enfin l'adolescent, dans l'état d'enfance, de petite enfance, et que justement le travail des pédagogues et le travail des auteurs, car il y a des auteurs en numérique, c'est une évidence, préside d'une recherche, d'un effort, même si ce mot n'est plus tout à fait à la mode. Et je pense qu'il faut qu'on se garde de ces satisfactions-là. Alors, en revanche, puisque tout est vrai et son contraire, enfin, on peut dire ça comme ça, mais en revanche, le produit fini, le produit beau tout de suite, oui, bien sûr, et moi, j'ai l'expérience d'enfants dyslexiques, d'enfants dysorthographiques, même si on peut dire aussi beaucoup de choses sur la dysorthographie. Le fait de passer directement au traitement de texte pour écrire, le fait de retravailler ses brouillons sur le traitement de texte, évidemment, c'est extraordinaire. Il y a des gamins qui n'avaient jamais écrit, qui se sont mis à écrire en sixième parce que, justement, on pouvait écrire sur l'ordinateur et qu'au contraire, on y était même invité. Ben voilà, c'est juste... J'apporte ma petite pierre.
Oui, sur la nature, quand vous mettez des enfants dans une école, ils sont entre quatre murs, ils ne sont pas dans la nature. Bon, le rapport à la nature, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je n'ai rien à dire de très précis. Par contre, sur la question de la satisfaction, de l'envie, de la satisfaction immédiate, je pense que pour construire une insatisfaction intéressante, il faut avoir été satisfait. C'est-à-dire, pour rentrer dans un objet, il faut qu'on ait compris que cet objet peut faire un certain nombre de choses et qu'il ne peut pas en faire un certain nombre d'autres. Il ne faut pas simplement avoir compris que cet objet ne peut pas faire des choses. Et que, de ce point de vue-là, l'immédiateté de l'outil, elle est intéressante. Mais c'est vrai que dans les propositions numériques, d'intervention numérique qu'on va avoir, c'est précisément un processus de réflexion, de mise en abîme, de production de forme qui... n'est pas dans la satisfaction immédiate, qui propose un véritable trajet de réflexion et de pensée, voilà, qui est donc une proposition artistique qui fait question, qui pose des questions. Mais au niveau de... faut pas mélanger ce qu'on demande à un enfant, ce qui est incontournable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement l'écran devient plus encore que le cahier, que ce que le cahier a pu être autrefois. Voilà. C'est vraiment un lieu de projection et de reconnaissance et de socialisation. C'est comme ça. Je porte aucun jugement de valeur. Je crois que malheureusement, de facto, il faut considérer cette réalité comme étant la leur ou la nôtre. Hein, voilà. Néanmoins, les propositions de l'art numérique sont des propositions critiques par rapport à ces solutions, à ces formes faciles ou de satisfaction immédiate. C'est aussi là que naît la différence entre les beaux-arts et la technique. C'est au niveau de l'interrogation de l'outil et aussi, je dirais, de l'isolement de la fonction poétique. C'est-à-dire, comme dit Mathieu Messagier, moi je communique, parlant de la poésie autant que de lui-même, moi je communique, mieux je me porte. Ça ne veut pas dire qu'il dit rien, ça veut simplement dire que avant de passer à la fonction communication, il ne faut pas oublier la fonction poétique. Et le fait qu'il puisse y avoir une interrogation de cette fonction poétique, c'est-à-dire la mise en évidence de ce que le langage numérique pose comme question en tant que langage, ça c'est véritablement un objet de pensée. C'est plus que simplement le lieu dans lequel on va déployer une pratique quotidienne, etc. On est passé à un autre niveau des pratiques.
Question peut-être.
J'ai une question. C'est d'abord sur, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est vrai qu'on parle des nouvelles technologies. Je trouve que dans la nature, ou quoi, il y a vraiment une, enfin, ne serait-ce que dans cette salle, c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment une matière numérique qui est en circulation. On a un visuel numérique. Alors, je suis étonné parce que l'écran affiche depuis tout à l'heure l'écran d'accueil. Vous êtes souvent venus avec des PC sur la table, et en fait, bon, il y a un visuel numérique dans le son numérique, le son, là on vient d'entendre, ouais. On vient d'entendre un portable qui vient de vibrer, qui est amplifié, on entend le cliquetis des ordinateurs, il y a vraiment une matière numérique, une matérialité sonore, visuelle, plastique, et c'est vrai que c'est super étonnant même de voir tous ces PC, toutes ces tablettes qui s'ouvrent, et puis toutes les écrans qui s'affichent, et en fait on y est autant que les élèves, je pense, qu'on veuille ou non. Ma question, je voulais juste poser, vous avez parlé donc d'écriture augmentée, de poésie augmentée, c'est quoi?
Voilà, ah, c'est... Bah, je pourrais... Non, je ne vais pas sur l'ordinateur. Je prendrais l'exemple d'un doctorant qui est passé par le CERC et qui est également poète, et ce qu'il appelle l'écriture augmentée, c'est un ensemble de, c'est un dispositif dans lequel ces lectures sont accompagnées par des images des poèmes qui se déforment, avec qui deviennent des sphères ou qui deviennent des cônes, enfin une sorte d'écriture en mouvement, et dans lequel sa voix est passant par un micro et retravaillée par un processus d'une certaine manière qui donne des tonalités, des tons, des effets de, voilà, un traitement de la matière sonore très très particulier, voilà. Évidemment, si le texte ne parle pas en tant que texte, le processus ou l'accompagnement s'effondre. Donc ça part quand même d'un rapport forme-contenu qui doit penser à la fois l'outil de diffusion et en même temps qui doit tenir, je dirais, être lisible pour lui-même, hein. Donc il y a d'autres propositions plus complexes, enfin je sais, par exemple Marcel Benayoun, bon voilà, c'est beaucoup plus une reprise de la tradition du cinéma, il n'y a pas qu'une réalité augmentée, il n'y a pas qu'une pratique numérique, voilà, c'est un ensemble de ça pose une question intéressante qui est celle du supplément. Est-ce que le supplément numérique, comment est-ce que le supplément numérique cesse d'être un gadget, quoi ? Ça, c'est une question qui, je crois que les artistes numériques considéreraient que c'est surtout pas un gadget, même si on peut se poser la question de, dans certains cas, de l'utilité réelle du numérique. D'autres créations, ce que vous verrez de Boinard et Gauthier, c'est vraiment basé sur le logiciel process, donc c'est fait pour et par le numérique. Toute leur proposition est basée sur de l'écriture, des logiciels, sur laquelle viennent se greffer, et cette fois-ci, c'est presque l'homme qui est supplémentaire, une intervention directe. Donc ça pose aussi des questions du rapport homme-machine, hein. C'est ça que ça met véritablement en cause, hein. C'est un objet technique tellement disponible que il peut devenir hypertrophié et gadgetiser l'humain. C'est aussi ça la question qui est posée.
Oui, en fait, c'est, juste pour vous dire, Armel Chitrit, je travaille sur le geste d'écrire et en poésie aussi. Et en fait, c'est la dimension sensorielle de ce geste qui m'interpelle dans l'intervention que la dame, je ne sais plus son nom, a faite. Et en fait, c'est la question de cette dimension sensorielle de l'expérience qui, à la fois... peut-être reposer dans les questions de supplément, d'augmentation, de transposition, mais qui pose de toute façon la question du temps qu'Alexandra, tu posais tout à l'heure. Le temps qu'on va prendre, enfin je ne veux pas faire du petit prince, mais pour sa rose, et qui finalement va permettre le rapport à l'autre, dans le rapport à l'autre, de développer une forme de présence et d'intention qui peut nous garder d'une forme d'aliénation, d'enfermement dans la solitude, etc. Donc c'est cette dimension sensorielle qui doit pouvoir peut-être être pas récupérée, mais un petit peu travaillée dans le suspens de la difficulté à réintroduire peut-être, ou c'est peut-être pas la difficulté le terme, mais en tout cas dans la notion d'augmentation, il y a la notion d'auteur, n'est-ce pas, avec une intention subjective sur laquelle il faut peut-être se pencher. Voilà, c'était un petit peu ma question. Oui.
Moi je suis quand même frappé qu'un certain nombre de films la dimension sensorielle fait partie du travail de post-production. Ça m'interroge.